38. Les instincts transformés par les jugements moraux. Le même instinct devient le sentiment pénible de la lâcheté, sous la pression du blâme que les mœurs ont fait reposer sur lui. Ou bien le sentiment agréable de l'humilité, si une morale, telle que la morale chrétienne, l'a pris à cœur et l'a appelé bon. Ce qui signifie que cet instinct jouira soit d'une bonne, soit d'une mauvaise conscience. En soi, comme tout instinct, il est indépendant de la conscience, il ne possède ni un caractère, ni une désignation morale, et n'est pas même accompagné d'un sentiment de plaisir ou de déplaisir déterminé. Il ne fait qu'acquérir tout cela comme une seconde nature, lorsqu'il entre en relation avec d'autres instincts qui ont déjà reçu le baptême du bien et du mal, ou si l'on reconnaît qu'il est l'attribut d'un être que le peuple a déjà déterminé et évalué au point de vue moral. Ainsi, les anciens Grecs avaient d'autres sentiments sur l'envie que nous autres. Hésiode la nomme parmi les effets de la bonne et bienfaisante Eris, et il ne se choquait pas à la pensée que les dieux ont quelque chose d'envieux. Cela se comprend dans un état de choses dont la lutte était l'âme. La lutte, cependant, était considérée comme bonne et appréciée comme telle. De même, les Grecs différaient de nous dans l'évaluation de l'espérance. On la considérait comme aveugle et perfide. Hésiode a indiqué dans une fable ce que l'on peut dire de plus violent contre elle. Et ce qu'il dit est si étrange qu'aucun interprète nouveau n'y a compris quelque chose. Car c'est contraire à l'esprit moderne qui a appris du christianisme à croire à l'espérance comme à une vertu. Chez les Grecs, par contre, la science de l'avenir ne paraissait pas entièrement fermée. Et l'information au sujet de l'avenir était devenue, dans les cas innombrables, un devoir religieux. Alors que nous nous contentons de l'espérance, les Grecs, grâce aux prédictions de leurs devins, estimaient fort peu l'espérance et l'abaissaient à la hauteur d'un mal ou d'un danger. Les Juifs, qui considéraient la colère autrement que nous, l'ont sanctifiée. C'est pourquoi ils ont placé la sombre majesté de l'homme qui accompagnait la colère si haut qu'un Européen ne saurait l'imaginer. Ils ont fasciné la sainteté de leur Jéhovah en colère d'après la sainteté de leur prophète en colère. Les grands courroucés parmi les Européens, si on les évalue d'après une telle mesure, ne sont, en quelque sorte, que des créatures de seconde main. 39. Le préjugé de l'esprit pur. Partout où a régné la doctrine de la spiritualité pure, elle a détruit par ses excès la force nerveuse. Elle enseignait à mépriser le corps, à le négliger ou à le tourmenter. À tourmenter et à mépriser l'homme lui-même à cause de tous ses instincts. Elle produisait des âmes assombries, raidies et oppressées, qui en outre croyaient connaître la cause de leur sentiment de misère et espéraient pouvoir supprimer cette cause. Il faut qu'elle se trouve dans le corps, il est toujours encore trop florissant. Ainsi concluait-il, tandis qu'en réalité le corps, par ses douleurs, ne cessait de s'élever contre le continuel mépris qu'on lui témoignait. Une extrême nervosité devenue générale et chronique finissait par être l'apanage de ces vertueux esprits purs. Il n'apprenait plus à connaître la joie que sous la forme de l'extase et autres podromes de la folie. Et leur système atteignait son apogée lorsqu'ils considéraient l'extase comme point culminant de la vie et comme étalon pour condamner tout ce qui est terrestre.